C'est-à-dire, c'est ça la véritable Église. Alors, tant mieux parce que nous allons avoir des murs, mais sans les murs, l'Église de Jésus-Christ, elle tient quand c'est lui qui est à la tête. Alors, je voulais juste vous le dire parce que je trouve ça absolument extraordinaire, extraordinaire. Et bientôt, nous allons avoir un toit avec une décoration qui nous convient. Ceci dit, je ne veux pas faire preuve d'ingratitude, hein, parce que nous avons toujours été dans des lieux de culte qui étaient accueillants, qui avaient un bon standing, et pour cela, je suis très reconnaissante au Seigneur, très reconnaissante. Alors, écoutez, je pense que, sauf si le Saint-Esprit voulait autre chose, nous allons passer à la parole. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Oui, vous êtes prêts? Alors, on va commencer par Jacques au chapitre 1. Alors, il n'y a pas de projection, donc les versets, ça fonctionne. C'était juste les paroles. Bon, d'accord. Donc, dans Jacques au chapitre 1, vous réalisez que cette parole-là, les mots n'ont pas changé depuis, en ce qui concerne le Nouveau Testament, n'ont pas changé depuis 2000 ans. Et à chaque fois que nous les entendons et que nous les recevons, à chaque fois, ils ont la puissance de nous transformer et de contribuer à notre avenir. Non mais c'est énorme! Jacques chapitre 1. Alors, cette version, on utilise différentes versions. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que les nôtres? Non, c'est qu'en grec, un mot grec peut être l'équivalence de plusieurs mots français. Par exemple, le mot amour, il y a plusieurs mots en grec pour le mot amour français. Donc, c'est pour ça que plusieurs versions nous donnent les différents mots qui sont utilisés. Mais il est dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un, c'est-à-dire n'importe qui, même le pasteur, je sais que ça va faire du bien à certains de savoir que le pasteur fait partie de la race humaine également, hein, mais si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, même moi, certains vont finir par douter en disant « Mais qu'est-ce qu'elle a à nous dire que... » Je vous rassure. Hein. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc quand il est dit ici, mettez en pratique la parole, l'idée en grec, c'est pas essayer une fois pour voir si ça marche. C'est quelque chose de systématique et quelque chose de continuel. C'est-à-dire le fait d'entendre la parole de Dieu, eh bien, doit avoir chez nous un réflexe continuel. Je vais utiliser, parce que mettre en pratique, c'est quoi? C'est utiliser ce que j'entends, utiliser ce que je comprends. L'appliquer, le mettre en pratique, c'est je vais l'appliquer, je vais personnaliser le verset. C'est-à-dire, je ne vais pas utiliser un verset pour moi et le reste, c'est pour mon voisin, parce que lui, tu comprends, lui, dans son cas, il en a besoin, mais moi. Alors que c'est, non, je ne m'occupe pas de mon voisin, je m'occupe de moi. Et moi, je décide que mon nom est dans ce verset. Et quoi que ce soit que je vois de la parole de Dieu, je vais me l'approprier, parce que cette parole a la puissance pour me changer. Donc, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. La Bible nous dit que celui qui ne fait qu'écouter la parole, vous savez, il y a des gens, ils écoutent la parole, ils écoutent la parole, ils écoutent la parole. Ils viennent écouter la parole le dimanche matin, mais ils n'ont aucune intention de l'appliquer. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas permettre à cette parole de Dieu de les changer en sachant que ces changements vont les rendre conformes à l'image de Dieu. Et le Seigneur dit que quand nous venons, nous approchons la parole, que ce soit à la maison, parce que nous sommes censés laisser Dieu nous parler à travers la Bible à la maison. Quand nous l'écoutons dans notre voiture, quand nous l'écoutons pendant que nous nous préparons dans notre salle de bain, quand nous cuisinons, où que ce soit, quand nous venons au culte, nous devrions le faire pas pour emmagasiner de la connaissance. Parce que la Bible nous dit, ça c'est un faux raisonnement, c'est-à-dire c'est un mauvais calcul de croire que la parole va nous changer ou que nous allons voir des choses changer dans notre vie rien qu'en écoutant la parole. La Bible dit c'est une mauvaise logique. C'est un faux calcul. Ça ne produira pas, c'est-à-dire ça ne servira à rien. À part que nous ayons mémorisé des versets, la raison pour laquelle nous voulons nous approcher de la Bible, c'est parce que nous voulons être changés. Nous savons que nous ne pouvons pas nous construire une vie telle que Dieu nous l'a réservée par nos propres forces. Donc nous nous approchons de Dieu. Nous faisons confiance à Dieu parce que nous croyons qu'il a un futur pour nous, mais c'est un futur que nous ne pouvons pas fabriquer nous-mêmes. Et le Seigneur dit, donc ne vous contentez pas d'écouter. C'est une fausse logique, c'est un mauvais calcul. On se trompe, c'est un mauvais raisonnement. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et il dit, parce que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, c'est-à-dire ne fait rien avec ce qu'il entend. Moi, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que nous avons là le choix de ne rien faire. C'est une responsabilité qui est énorme. Nous avons le choix de faire quelque chose avec ce que nous entendons, c'est-à-dire de faire, de pratiquer. Mais nous sommes tellement libres que Dieu peut nous voir venir dimanche après dimanche après dimanche en ayant l'intention juste d'écouter par curiosité, en sachant qu'on n'en ferait rien. Et malgré cela, c'est ça qui est énorme, c'est géant. Dieu nous donnera la même qualité de parole. C'est-à-dire que le Seigneur, quand il nous voit arriver le dimanche matin, ou quand il sait qu'on va écouter un enseignement, conférence, peu importe ce que vous voulez, il n'est pas en train de dire, moi je sais, tu ne vas rien mettre en pratique. Le transformer en exercice intellectuel, je sais très bien que tu ne vas rien en faire. Tu n'as pas l'intention de mettre en pratique ce que tu vas entendre. Alors tu sais quoi ? Je te le donnerai pas. Voilà, c'est ça, je te bouche les oreilles. Toi, tu n'entends pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que Dieu, lui, va rester fidèle à lui-même. Il va quand même lui faire sa part et nous dire ce que nous avons besoin d'entendre, c'est-à-dire... il ne partagera pas avec nous la responsabilité d'une vie gâchée. Il dit ici, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, donc ça a à voir avec l'œil, et qui après s'être regardé, c'est-à-dire que quand nous lisons la Bible, cette loi, la loi parfaite, qui est aussi appelée la loi de la liberté, qu'est-ce que c'est bien d'être libre. Oh, c'est bien d'être libre vis-à-vis de la peur. C'est-à-dire ne pas fléchir le genou devant la peur. Ne pas prendre de décision face à la peur. Mais c'est extraordinaire, quelqu'un qui est libre vis-à-vis de la peur. C'est extraordinaire d'être libre vis-à-vis des finances. De savoir que ce n'est pas elle qui nous donne un futur. C'est extraordinaire de ne pas avoir peur de la solitude. Sachant que Dieu est celui qui est avec nous et il pourvoit. C'est extraordinaire d'être libre vis-à-vis de la tentation, vis-à-vis du péché, vis-à-vis de l'opinion des autres, vis-à-vis de l'échec. C'est extraordinaire d'être libre vis-à-vis de l'échec. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire oser prendre des risques pour envisager un nouveau futur. C'est extraordinaire! Être libre vis-à-vis de la réussite. Il y a des gens qui savent qu'ils ont réussi dans un domaine, ils n'osent pas changer parce qu'ils ont peur d'échouer ailleurs. Et la Bible nous dit que les paroles que nous entendons de la part de Dieu sont toutes des paroles qui produisent la liberté. Pourquoi ? Parce qu'elles nous révèlent notre identité. Elles nous révèlent qui nous sommes vraiment quand nous sommes nés de nouveau. Et quand nous savons qui nous sommes vraiment parce que nous sommes nés de nouveau, alors c'est d'après cette identité seule que nous prenons des décisions dans la vie. Et la Bible dit, nous plongeons les regards dans la parole de Dieu. Nous découvrons la liberté des enfants de Dieu. Et là on dit, oh, waouh! Mais je ne savais pas moi que Dieu était avec moi tous les jours. Certains croient que Dieu va les rencontrer une fois arrivés au ciel, tu sais. Et puis sur terre, c'est tu te débrouilles. Non, fais ce que tu peux, mon grand. Sois déjà content que je t'ai sécurisé ton éternité. Et puis, ils lisent la Bible et tout d'un coup, ils disent, non mais arrête, c'est pas possible. Dieu a promis d'être avec moi tous les jours. Et en plus, sa présence est en moi. J'ai des fleuves d'eau vive qui coulent de mon être intérieur, qui arrosent tout mon corps, qui arrosent toute mon âme, qui me gardent fort alors que je devrais être faible. Waouh ! Mais c'est extraordinaire de lire ça. Amen et pas amen, hein ? Parce que la fin du verset dit, n'étant pas un auditeur oublieux, donc il faut quand même faire des efforts pour se le rappeler. Et la meilleure manière de se rappeler ce que la Bible, ce que Dieu dit de nous, c'est de le garder devant nous régulièrement. C'est-à-dire de ne pas lire la Bible une fois tous les soirs de Noël avec les enfants, seulement. Mais il est dit, mais se mettant à l'œuvre. C'est-à-dire, on devrait écouter pour savoir que faire. On devrait écouter la Bible, écouter la parole de Dieu pour savoir que faire. Comment vivre sur cette planète avec tous les défauts et les problèmes qu'elle contient. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, c'est merveilleux la vie chrétienne une fois que je serai arrivé au ciel. Mais ce qui est extraordinaire, c'est d'apprendre à vivre ici-bas, au milieu des problèmes, avec encore un corps imparfait sur nous comme vêtements, avec un mari imparfait, une femme imparfaite, parce qu'on sait toujours que c'est l'autre, évidemment. Une version dit, ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Une autre dit, mais devenez des réalisateurs de la parole. Et pas seulement des auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes, Mais celui qui s'est penché sur une loi parfaite, celle de la liberté, et s'y est appliqué, non en auditeur distrait. Tu sais, tu es en train d'écouter le pasteur, puis pendant ce temps, tu es en train de penser à une recette de cuisine qu'on t'a donnée. Comment est-ce que je fais ce pain déjà? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Quelle farine il fallait mettre? Et pendant ce temps, oh, Dieu parle, c'est loin, mais... Je m'amuse en ce moment, parce qu'on a parlé du pain avec quelqu'un. C'est pour cela. Et la suite du verset dit, celui qui s'est penché, donc celui qui connaît la parole de Dieu, et qui s'y est appliqué, en réalisateur agissant. Il y en a beaucoup qui disent, oh, moi j'aimerais réaliser quelque chose. Ben, tu as la possibilité. Pratique ce qui est écrit, tu vas réaliser. Il y a des gens qui regardent leur vie comme si c'était un film, c'était de la science-fiction, ou si c'était juste Alice au pays des merveilles. Mais tu es le réalisateur de ta propre vie lorsque tu pratiques la parole de Dieu. Alors, moi, là, je vais vous lire cette version. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Alors, qui dit ceci? C'est le Saint-Esprit. Et il y a une chose que je sais concernant mon Dieu, c'est qu'il ne dit pas « ça c'est vrai pour toi et ça c'est pas vrai pour toi ». Il dit « c'est vrai pour tout le monde », c'est-à-dire que Dieu, lui, va faire sa part. Il est celui qui dit « quiconque met en pratique ce que je dis, il réussira dans tout ce qu'il fait ». Et mes amis, quand Dieu dit tout, il ne pense pas à un seul domaine de ta vie pour lequel ce tout ne s'applique pas. C'est tous les domaines de ta vie. Tout ce qui fait que tu es toi, Dieu dit, tout peut être béni dans ta vie et Dieu n'a pas mis de limite d'âge. Il n'a pas mis non plus de limite en pensant à tel pays ou pas tel pays. Il n'a pas dit, c'est bon pour telle couche sociale et c'est pas bon pour une autre. C'est bon pour les hommes et c'est pas bon pour les femmes. C'est bon pour les jeunes mais c'est pas bon pour les moins jeunes. Ou alors c'est bon pour les anciens et c'est pas bon pour les enfants. Imaginez un enfant qui soit habitué à aller chercher la pensée de Dieu, qui soit éduqué à la mettre en pratique, il sera éduqué dans la bénédiction, dans tous les domaines de sa vie. Quel genre d'enfant ça peut faire dans sa classe? Quel genre de père, de mère ça peut faire plus tard? Quel genre d'employé, d'employeur ça fera plus tard? Quelqu'un qui n'est pas habitué à l'échec. Parce que très souvent, on enseigne les enfants à être habitués à l'échec. Mais Dieu ne pense même pas l'échec pour un enfant. Quelles que soient les circonstances, il sera toujours un enfant qui rebondit, qui remonte à la surface comme un bouchon de liège. Alors il faut dire la vérité aux enfants. Il faut oser leur dire la vérité. Moi, je voudrais vous poser une question. À quel point vous servez-vous de votre foi ? Par exemple, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous pourriez évaluer la foi dont vous vous servez? Est-ce que vous pouvez dire, bon ben moi, dans ma vie, j'exerce ma foi, je dirais à 90% ma foi est active dans tous les domaines de ma vie. Ou est-ce qu'il y a des personnes qui disent, ben moi j'exerce ma foi, allez, un petit 1%. Juste dans le domaine de la santé, j'exerce ma foi, c'est tout. C'est-à-dire, je sais ce que la parole de Dieu dit, et ensuite, je déclare ce que la parole de Dieu dit. Mais pour se servir de sa foi, il faut faire. Il ne s'agit pas d'écouter. Il ne s'agit pas de savoir que faire. Encore faut-il se dire, je vais le faire. Je vais pratiquer, je vais l'appliquer. Ça passe par moi, ce n'est pas Dieu. On s'attend à ce que Dieu fasse tout le travail. C'est-à-dire que la foi, en général, on ne s'en sert pas. Il y a peu de gens qui se servent de la foi quand ils sont assis sur la chaise à l'église, à tort. Parce que moi, j'exerce ma foi quand je suis assise dans une conférence ou dans ma propre église. Tu dis, ah bon, pourquoi ? J'exerce ma foi pour entendre les paroles que je dois entendre. Parce que je ne peux pas me passer de la parole de Dieu. Je ne peux pas me passer de la vie de Dieu. Et puis ensuite, j'exerce ma foi pour recevoir l'onction nécessaire. Mais je n'exerce pas ma foi seulement quand je suis à l'église. J'exerce ma foi dans tous les domaines de ma vie. Que ce soit point de vue physique, que ce soit point de vue matériel, que ce soit point de vue église, ministère, relationnel, la place dans la société, tout ce qui concerne ma vie, j'exerce ma foi. Dans certains domaines plus que dans d'autres. Mais ça ne sert à rien, ce que je sais ne me sert à rien si je n'en fais rien. La Bible nous dit, Hébreux chapitre 11, verset 4, il est dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Pour être capable d'offrir à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de son frère, la Bible dit, Abel a utilisé sa foi en Dieu et il l'a mise en pratique. C'est-à-dire, il a cru que quand il faisait ce sacrifice, Dieu allait l'honorer. Mais on regarde au verset 7. La Bible dit, c'est par la foi, Hébreux 11, 7, c'est projeté, c'est par la foi, c'est-à-dire c'est par sa confiance en Dieu, c'est parce que Noé a entendu ce que Dieu allait faire. À cette époque-là, Dieu a dit, je vais juger les hommes parce que cette génération est corrompue. Et Dieu voulant, l'année qui vient, nous allons avoir un week-end studieux sur les jours de Noé. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant les jours de Noé. Et vous comprendrez beaucoup mieux beaucoup de passages de l'Ancien Testament et beaucoup d'autres passages du Nouveau. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées là et qui expliquent pourquoi Dieu a dit certaines choses. Et notamment pour le déluge. Ce n'est pas parce que tout d'un coup, Dieu a fait une saute d'humeur. Il a dit, oh là là, j'en peux plus avec ces humains. Là. Bouloulou. Allez hop, stop, j'en garde un spécimen, 8, et puis les autres. Non, il y avait des choses graves et sérieuses qui se passaient. Mais Dieu a dit à un homme, il a dit à Noé, tu vas te construire une arche. Donc Noé ne savait pas ce que c'était une arche. Les dimensions qu'il a données, c'était 150 mètres, c'était quelque chose d'énorme. Et puis il fallait qu'il y ait une forme particulière, il fallait qu'il enduise à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui est bizarre parce que normalement on ne fait pas les deux côtés à la fois. Et puis il y avait des fenêtres, mais les fenêtres n'étaient pas rectangulaires ou carrées, c'était comme des meurtrières horizontales. Mais Noé a fait quelque chose en fonction de ce que Dieu lui avait dit qui n'avait jamais été fait dans l'histoire de l'humanité. Et puis quand Dieu lui a dit « fais une arche » et qu'il lui a donné le modèle, Noé ne s'est pas contenté de l'écouter. Parce que si Noé s'était contenté d'écouter ce que Dieu lui avait dit, en connaissant même tous les détails, mes amis, il aurait péri. C'est-à-dire que quand nous écoutons Dieu, c'est pour notre propre salut. Pas simplement notre éternité, nous sommes sauvés en ayant accepté Jésus, mais pour notre futur. Mais combien de personnes écoutent ne font pas parce qu'ils sont en train d'argumenter avec Dieu, ou ils pensent tout simplement, ah ben non, c'est pas le moment. On doit apprendre que quand Dieu nous dit quelque chose, on va le mettre en pratique. Quelquefois, effectivement, il y a une histoire de temps, mais quand Dieu nous dit de faire quelque chose et que ça n'est pas encore le moment de le faire, il nous dira. Alors, il devra nous dire, non, attends encore un peu. Mais s'il ne nous dit pas, attends un peu, on le fait tout de suite. Noé a entendu ce qu'il devait faire. Je dois dire, c'est quelqu'un que j'admire. Il a entendu et il a été chercher le bois. C'était un bois de gopher, qui était un bois tout à fait particulier. Dieu ne lui a pas dit, prends de l'hêtre, ou alors tiens, prends du bouleau, ou prends allez, un châtaignier. T'as un châtaignier, t'as un olivier, t'as des oliviers. Bah, vas-y, allez, comme tu veux. Non, il y avait un bois particulier à cause de la symbolique. Parce que c'était prophétique également. Il l'a fait, il lui a donné la forme exactement ce que Dieu voulait qu'il construise. Et à un moment, Dieu a... Alors vous imaginez les rires. Les rires pendant que... Parce qu'en plus, la Bible dit que c'était une génération méchante. C'était une génération qui était extrêmement rebelle. C'était une génération extrêmement moqueuse, comme tous les rebelles. Et pendant que Noé était en train de dire à ceux de sa génération, ben, Dieu a dit qu'il allait pleuvoir, il allait faire un déluge sur cette terre. Les gens disaient, ça veut dire quoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la pluie. Il a fallu que les sources de dessous la terre montent et que la pluie descende. Noé n'avait jamais rien vu de pareil. Beaucoup de gens veulent faire ce qu'ils voient les autres pratiquer. Mais ce qui concerne ta vie personnelle, tu ne peux pas copier sur les autres. Et Noé a commencé à construire cette arche et quand les gens lui demandaient des explications, je vais vous dire ce qu'il disait. À part le fait que Dieu m'a dit qu'il allait inonder cette planète, je ne sais pas pourquoi je fais ce que je fais. Certains ont pu dire, je ne sais pas pourquoi j'ai déménagé de ma région pour venir à l'église La Bonne Nouvelle. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a demandé de changer de métier. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit de changer de quartier. Je ne sais pas pourquoi. La seule chose que je sais, c'est que je dois le faire. Mais combien de fois, parce qu'on se sent mal à l'aise, vis-à-vis de notre famille, de nos amis, on ne fait pas ce que Dieu nous dit de faire. Et il a continué, il a assemblé ses planches, il a assemblé. Et les autres, ceux de la ville, voyaient que Noé était obligé d'élargir les routes pour faire passer du bois. Et Noé a continué. Il a eu une persévérance qui a été à toute épreuve. Mais je pense qu'il a dû être tenté mille et une fois. Écoutez les amis, ça a duré 100 ans son histoire. Ça n'a pas duré 3 semaines. Ça n'a pas duré 6 ans. Ça a duré 100 ans sans qu'il puisse vraiment donner des explications intelligibles à des gens qui se moquaient. Et ils ont vu l'arche qui était construite, qui était construite, qui était construite, qui était construite. Et à un moment, Dieu a dit, maintenant Noé, c'est le moment de rentrer dans l'arche. Et il a dit, fais venir des couples d'animaux purs, impurs. Il a donné exactement les informations. Noé, la seule chose qu'il a pu faire, c'est pratiquer. Parce que je pense que s'il a dû se fier à ses sentiments, les gens disant, tu sais, pour pardonner telle personne, il faut que je le ressente. Non, c'est juste une décision. La Bible dit, pardonne. Qu'est-ce que tu fais? Tu le dis, tu pardonnes. Stop, stop. Arrête d'essayer de sentir. Il n'est pas dit tu vas pardonner en fonction de ce que tu ressens. Il est dit juste tu pardonnes. Tu lances ces paroles de pardon et après laisse Dieu agir. Et Noé, peu importe ce qu'il ressentait, il a dû faire rentrer les animaux sous les rires des autres en disant ah dis donc, ça va sentir bon dans ton arche là, hein? Hein? Je vais te dire là. Et combien de temps tu vas rester là-dedans? Je ne sais pas. À quoi ressemble une inondation? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça va faire de vivre pendant je ne sais combien de temps là, va durer ta traversée? Et vivre avec tous ces animaux, ça ressemble à quoi? Je ne sais pas. Et à un moment, Dieu a dit maintenant, c'est toi, ta famille, vous rentrez dans cette arche. Allez expliquer à vos enfants que vous allez vivre dans un bateau avec plein d'animaux. Et tout d'un coup, Noé a vu la porte de l'arche se soulever, se lever, et il a entendu. Maintenant, on peut lire le verset. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Voyez-vous, la foi, elle s'exerce quand on ne voit pas encore, quand on ne ressent pas encore d'amélioration dans le corps, quand on ne voit pas encore un changement sur notre compte en banque. C'est là qu'il faut avoir la foi. C'est là qu'il faut croire que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Et saisi d'une crainte respectueuse, ben ça c'est indissociable. C'est indissociable. Ce n'est pas une peur de Dieu. C'est estimer que sa parole est supérieure à la nôtre. Il construisit une arche pour sauver sa famille. Mais à l'époque, il ne savait pas que c'était pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il y aurait 15 sermons à prêcher là-dessus, mais ce n'est pas le but. Noé a cru que Dieu allait inonder la terre, il a construit une arche, et sa foi a parlé aux autres. D'abord, sa foi a été un sujet d'ironie, de moquerie, pour ceux qui ne croyaient pas. Il y avait 8 qui croyaient en tout. Mais quand la roue a commencé à tourner. Vous savez, il y a des gens qui se moquent de votre foi. Ils leur disent, ne me dis pas que tu crois en Dieu, tu as autre chose à faire. Ne me dis pas que tu restes célibataire pour te garder. En te gardant, il y a autre chose à faire. Et continue à vivre par la foi. Continue à avoir une crainte respectueuse de Dieu. Et le jour où ces personnes vont se retrouver à 2 secondes ou même 1 heure de passer de l'autre côté du voile, je peux te dire que ta foi leur parlera. Elle leur parlera, ta foi. Elle leur parlera. Notre foi finira toujours par parler aux incrédules. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas parce que, encore une fois, elle parle qu'ils vont se l'approprier, mais elle parlera. Alors moi, je veux vous encourager. J'ai beaucoup plus. Mais je pense que c'est juste ce qui a été dit. Je veux vous encourager à pratiquer ce que Dieu vous dit dans les Écritures, à pratiquer ce que Dieu vous dit dans votre esprit. Parce que beaucoup de gens veulent être conduits surnaturellement par l'Esprit de Dieu. Mais si on n'est pas déjà en train d'appliquer, si on n'est pas en train de respecter la parole qui est écrite, on aura des difficultés à respecter la parole qui est écrite dans notre cœur. Dieu nous parle par la Bible et Dieu nous parle en écrivant sur la table de notre cœur. Et plus on s'habitue à ce qui est écrit dans la Bible, plus on s'habitue à la voix du Saint-Esprit la page écrite, et plus on sera à l'aise pour discerner la même voix du Saint-Esprit sur la page de notre cœur. Mais le futur que Dieu a pour chacun, c'est par la foi que vous l'aurez, en pratiquant ce que Dieu vous dit de faire. D'abord ce qui est écrit, et puis ce que vous entendez dans votre cœur. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons parce que tu nous incites à te faire confiance. Tu nous inspires à croire pour des choses meilleures. Tu nous incites, mon Dieu, à te faire confiance parce que tu ne mens pas. Et Seigneur, nous voulons, aide-nous, Seigneur, à pratiquer ce que tu nous dis parce que c'est pour notre bien, c'est pour notre propre salut. Dans le nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, je vais le faire.